Ce n'est pas une erreur de boycotter. D'abord, nous n'avons pas pris part parce que nous n'avons pas contacté forcément pour y prendre part. Mais nous ne prenons pas part parce que nous estimons qu'il y a certaines conditions, certains préalables qui devaient être pris en compte pour que la réussite totale de ce dialogue.
Et quels sont ces préalables?
Il y a d'abord le dialogue doit être inclusif parce que c'est une question, il traite des questions très capitales de la vie de la nation congolaise et ces questions-là devaient réunir autour du facilitateur toutes les forces politiques considérables de notre pays.
Oui, mais actuellement, quasiment toutes les formations politiques de l'opposition et de la société civile sont quand même présentes, non? Même si certains ont dit.
Non, elles ne sont pas présentes parce que le facilitateur lui-même, lorsqu'il a commencé, il y a eu une rencontre des opposants congolais qui ont créé une plateforme qui s'appelle le Rassemblement des forces acquises au changement. Et ce rassemblement-là est absent.
Oui,
la grande composante de l'opposition qui fait partie de ce rassemblement-là, qui regroupe plus de 4 plateformes politiques, qui est absente, la grande absente de cette rencontre-là. Et c'est ça qui... Et ces formations-là sont représentatives sur le terrain. Et c'est ça qui enlève un peu le caractère... d'inclusivité à cette rencontre qui vient de commencer.
Oui. Maintenant, malgré donc...
Il y a des préalables. Lorsque vous devez aller dans des rencontres, il y avait des préalables qui avaient été soulevés, notamment la libération des prisonniers politiques.
Oui, mais certains de ces prisonniers ont quand même été libérés, non?
On a libéré plus ceux de la société civile, des activistes de droits de l'homme. Mais les politiciens... On les a pas libérés. Alors, le dialogue va mettre en confiance, va mettre autour de la table les politiciens. Mais lorsque les politiciens trouvent qu'il y en a certains d'entre eux qui sont encore en détention, quelle confiance? Quelles sont ces mesures-là qui vont favoriser la confiance? C'était par exemple la libération de ces prisonniers politiques qui pouvaient un peu décrisper, mettre tous les Congolais, que ce soit de l'opposition comme de la majorité, en confiance. Et cela n'a pas encore été fait. C'est vrai, on a libéré nous-mêmes, nous avons assisté. La libération des prisonniers, c'est plus ceux de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme.
Ouais.
Mais les prisonniers politiques, membres des partis politiques, ne sont pas libérés.
Ouais. Au cours d'un entretien que nous a accordé donc M. Martin Fayulu, membre de la coalition de l'opposition Le Rassemblement, nous a clairement dit qu'à partir du 17 septembre prochain, l'opposition, du moins celle qui boycotte le dialogue, ne va plus reconnaître Joseph Kabila Kabenge comme le président de la RDC. Ne craignez-vous pas une impasse politique?
Bon, il y a une question fondamentale qui devait être traitée d'abord au dialogue, c'est la conséquence juridique de la fin de mandat du président Kabila. Parce qu'il est à son deuxième et dernier mandat. Et à la grande surprise, lorsqu'on parcourt la feuille de route, cette question-là n'est pas clairement abordée. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est par rapport à la fin du mandat du président Kabila, qui a son dernier et deuxième et dernier mandat selon la Constitution. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question même fondamentale.
Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre Kalenga?
Les opposants ont raison, oui.
Oui, maître Kalenga, est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même aller à ce dialogue pour exprimer de vive voix ses positions lors de ces assises?
Bon, les positions étaient transmises au facilitateur. Elles étaient soumises au facilitateur qui est passé un peu parce que le facilitateur a eu des contacts avec toutes les différentes plateformes. Il a eu à s'entretenir avec toutes les plateformes là, qui lui ont donné des conditions, des préalables. Il fallait s'accuser ou rencontrer ne fût-ce que ces préalables-là avant de convoquer le dialogue. C'est ce qui n'a pas été fait. Un peu ça. Ils ont soumis ces questions-là et que ces questions. C'est comme ça qu'on a convoqué ce dialogue pour élaguer un peu cette question-là, à notre avis.
Ouais. Donc, si je vous comprends bien, vous n'attendez...
Parce que la crise congolaise naît du fait... je vous donne un scénario. Il suffit que... le chef de l'État actuel de la République démocratique du Congo fasse une déclaration qui ne sera pas candidat et que les élections seront organisées dans les délais constitutionnels. Il n'y aura plus même, le dialogue n'aura pas sa raison d'être.
Oui,
mais c'est par rapport à ce flou dans lequel nous naviguons que toutes ces questions-là se posent.
Oui, mais par rapport à l'organisation des élections, même si le président Kabila décidait de ne plus briguer un troisième mandat, la CENI s'est dite dans l'incapacité financière de l'organiser, d'organiser cette présidentielle.
Ça, c'est encore une autre question qui a été discutée par il y a une plateforme qui regroupe toutes les organisations de la société civile congolaise qui sont impliquées dans le processus électoral, qui ont démontré qu'il était encore possible, vu le temps et avec les moyens que nous disposons, d'organiser les élections. Toutes les plateformes, toutes les organisations qui œuvrent dans les élections ont pu démontrer cela. Qu'il est encore possible. Seuls, nous devons nous référer aux expériences d'organisation d'élections en 2006 et ce qui a été fait en 2011, si on doit analyser tous les timings, c'est encore possible. Mais seulement, c'est une question, ce sont une question d'enjeux politiques, de conservation du pouvoir qui empêche la tenue des élections. Parce que notre pays, si nous devons nous soumettre un peu aux déclarations qui ont été faites, nous avons eu une croissance pendant deux années minimum. Nous avons connu une croissance économique dans notre pays. Et le budget de l'État réservait une certaine somme d'argent qui devait être affectée à l'organisation d'élections. Jusque-là, le pouvoir en place n'a pas donné des justificatifs pour effacer cet argent qui était pourtant prévu par le budget. C'est tout ça ces questions-là. Souvent, nous disons que c'est une question d'ambition politique, de conservation du pouvoir.
Donc, en conclusion, Maître Venance Kalenga, vous n'attendez quasiment rien de ce dialogue chapeauté par Edem Kodjo?
Bon, nous craignons que tu te rends compte du fait que le dialogue n'est pas consensuel, qu'il ne puisse résoudre la crise congolaise. C'est un peu ça, parce que nous souhaiterions que, comme nous sommes, il y a les Nations Unies, il y a une mission de maintien de la paix et de la stabilisation du pays, qu'elle puisse s'impliquer pour que nous soyons quand même un pays modèle en termes de démocratisation, de démocratie.
Ouais, donc vous souhaitez...
Ce fait risque de créer des crises qui vont, des crises de légitimité. Le plus grand problème que nous avons connu dans notre pays, c'est le problème de la crise de légitimité des autorités. Et la situation telle que le va, notre crainte en tant qu'acteur de la société civile, c'est que cette crise-là ne puisse continuer. Parce qu'on aura du mal à imposer le point de vue d'un camp sur un autre. Le seul cadre qui peut résoudre ces questions-là, ce sont les élections. Mais à l'allure où vont les choses, et les élections tenues dans un délai bien précisé par la Constitution, et à l'allure où vont les choses, on risque d'aller en dehors de ce cadre-là et il y aura des problèmes. On va retourner encore à la case de départ qui avait conduit à ce que nous ayons une mission d'assaut dans notre pays, c'est-à-dire la crise de légitimité des autorités au sommet de l'État. Mmh. Et c'est ça la crainte que nous avons. Nous aurions voulu prendre tout le temps et essayer un peu de satisfaire toutes les conditions pour que nous puissions résoudre cette question-là qui a toujours fragilisé notre pays. Mais tel que ça va, c'est qu'on risque de retomber dans la case de départ de crise de légitimité des autorités.